Ça va toi aujourd'hui?
Là je me sens bizarre.
C'est pas du tout. Je suis pas du tout. Je suis
pas. J'ai encore un truc à dire.
Non, ça va pas trop.
Oh là là, je me sens bizarre.
Non, c'est comme je suis en train de raconter.
J'ai encore un truc à dire.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Mais qu'est-ce que ça raconte?
Bah ouais, on passe à la radio.
Silence Radio, la radio des schizos, la radio des parano, la radio des gens pas réglo.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Et nous voici de retour pour la nouvelle émission, justement aujourd'hui, qui est à la clinique Sans Souci. Et nous sommes encore en studio volant. Et nous sommes en direct au Bourlingueur, justement, qui se trouve être un lieu de lien. Et nous sommes aussi à l'occasion de l'inauguration des nouveaux bâtiments, des nouveaux locaux de Sans Souci. Et nous allons parler plus particulièrement du Bourlingueur, ce lieu qui fait un petit peu le lien. Et je voulais faire justement une petite chronique sur ça et dire que les lieux de lien sont importants dans notre société. Cela permet une cohésion sociale, une guidance de notre société moderne. Se poser pour mieux se connaître, le temps d'un café, d'une rencontre, à Sans Souci, le Bourlingueur est là pour remplir cette fonction. Et aujourd'hui, nous avons comme invité alors Jean-Marc Prils, qui est directeur du département paramédical à Sans Souci, ainsi que Marco, qui est père aidant à l'ASBL La Route, qui fait aussi l'accueil au Delta et qui est aussi actif au Piano Tel. Alors, comme chroniqueur, nous avons Thomas aujourd'hui.
Bonjour.
Alors, nous avons Chantal.
Bonjour.
Pascal.
Bonjour.
Et nous avons Margot qui assure la régie aujourd'hui. Donc, merci de faire la régie aujourd'hui.
Avec plaisir.
Voilà, merci beaucoup. Et justement, nous allons parler de ces lieux de lien. Et pour ça, je vais laisser un petit peu Jean-Marc nous parler un petit peu de ça aujourd'hui, de ce qu'il veut dire de ce lieu.
Lieu de lien. Alors, ce lieu de lien ici du Bourlingueur est un lieu de lien assez exceptionnel parce que le premier lieu de lien auquel la Clinique Sans Souci a collaboré à l'élaboration, à la mise en route, c'était le Club Nord-Ouest. Et ce lieu de lien, en fait, se trouve en ville. Or, voilà que, par la suite, avec l'arrivée de pères aidants ici dans la Clinique Sans Souci, se crée un lieu de lien intra-institutionnel. Et la clinique peut aussi être un lieu de lien, à condition que le lieu de lien extérieur et le lieu de lien intérieur puissent s'articuler. Le but, la santé mentale en fait, elle n'est pas à l'hôpital essentiellement, elle est dans la cité. Voilà. Si ce lieu de lien-ci peut contribuer à la réhabilitation psychosociale, au fait que les patients sortent et revivent en ville, et à ce que la santé mentale puisse s'ancrer plus dans la ville d'une façon naturel, je dirais, alors c'est gagné. Nous avons commencé par le Nord-Ouest, nous avons continué par le Bourlingueur, et ce mouvement de va-et-vient entre les deux, je pense, est vraiment important. Voilà juste ce que j'ai envie de dire pour commencer.
Ben, merci Jean-Marc pour ces petites remarques, cette petite histoire. Et Marco, je ne sais pas si tu as envie de participer, de parler de ton ressenti justement par rapport à ces lieux de lien qui sont créés dans des cliniques ou autre part justement.
Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est simplement que je suis content que ces lieux existent dans le travail de père aidant, même dans le travail psycho-institutionnel ou autre. Ce qui est le plus important, c'est le lien. Je dis bien les liens et pas le lien. Parce que c'est très multiple. Je dirais que c'est aussi multiple le lien que les personnes sont multiples, que les maladies ou affections, peu importe comment on les nomme, sont multiples et que les parcours sont aussi éminemment individuels. Et donc, ce que je voudrais souligner, c'est qu'au niveau des tissus bruxellois, en tout cas que je connais relativement bien, les lieux ont chacun leur spécificité. Et donc c'est ça qui est pour moi assez fondamental, c'est qu'on peut trouver actuellement il y a encore du travail à faire, hein, mais on peut trouver une place en fonction du moment où on est, de la personne qu'on est, et voilà. Donc c'est vraiment très multiple, et c'est ça qui est très chouette.
Moi, j'avais une petite question, Marco. Tu parles de lieux de lien qui ont chacun leur spécificité, mais il y a quand même des points communs à ces lieux de lien.
Je dirais que le seul point commun que je vois entre les lieux de lien, c'est la façon centrale qu'on a d'insister sur la notion de lien. Ce sont des lieux, pour certains, en tout cas la majorité, très ouverts. Il y a des lieux où on ne rentre pas comme ça sans passer par une rencontre. Il y a des lieux qui sont très ouverts, je pense au Pianoctel, où vient qui veut, on n'est pas obligé d'avoir un parcours en psychiatrie, l'espace 51 non plus, entre autres. Mais c'est vraiment ce qui relie tous ces lieux, c'est vraiment la notion des liens et l'importance qu'on peut y accorder, parce qu'on sait bien qu'on est des animaux sociaux et que sans ça, on est perdu. On est vraiment perdu.
Comment est-ce possible que ça arrive seulement maintenant, avec la crise du Covid, et que c'est tellement récent finalement, les lieux de lien qui ont poussé un petit peu comme des champignons ici et là, donc à Bruxelles en fait.
Mais je dirais que justement la crise a été un révélateur. La demande était évidemment là avant. On n'a pas inventé quelque chose avec ces lieux de lien. Ça existe depuis bien longtemps. Mais le fait qu'on ait mis l'accent là-dessus, je dirais que c'est, sans faire une critique au niveau politique, mais on s'est rendu compte simplement que ces lieux répondaient à un besoin et que si ce besoin n'était pas rencontré, à ce moment-là, on aurait d'autres problèmes. Donc, effectivement, les moyens maintenant sont débloqués parce que le politique a enfin ouvert les yeux là-dessus. Mieux vaut tard que jamais, j'allais dire, mais c'est peut-être pas la bonne façon de le dire. Je dirais, réjouissons-nous que ça ait lieu et que ça se passe, que ce soit maintenant, pas avant, on peut le déplorer, mais on peut rien y faire.
Oui, donc lieu de lien, donc avec leurs spécificités, leur point commun qui est le lien, hein, c'est ce que tu dis. Quels sont ces lieux de lien et où sont-ils et comment je peux faire moi qui ai envie de rencontrer du monde, comment je peux faire, est-ce que c'est dans chaque commune, est-ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas justement une étiquette un peu psy ou quoi ou...
Voilà, c'est assez polysémique, hein, donc lieu de lien, mais comme Jean-Marc le soulignait, ça peut être institutionnel comme dans le cadre de Sans Souci, et aussi loin que je suis informé, c'est peut-être le seul lieu qui soit intra-institutionnel. Sinon, ils sont, comme on dit, inclus dans la ville, dans le tissu social, justement pour faire un peu sauter ces étiquettes liées à la santé mentale. Et bien souvent, ces lieux sont dans des maisons qui n'ont pas l'air d'être dédiées à ça. Parce qu'effectivement, on voit ça, par exemple, les gens qui fréquentent les lieux de lien, parfois font la démarche de ne pas fréquenter ça près de chez eux. Parce que les gens savent évidemment à quoi sert cette maison et donc ils vont faire la démarche d'aller plus loin. Il y a des gens pour qui la proximité est un facteur important. Donc ça aussi, il faut tenir en ligne de compte. Et quant à la fréquentation, c'est ce que je disais, il y a des lieux qui sont plus destinés à un parcours, enfin des gens qui ont un parcours en psychiatrie, puis il y a des lieux qui ont fait le choix de s'ouvrir sur la société, de s'ouvrir sur le quartier. Je pense à l'espace 51 où c'était vraiment fondamental de faire le lien avec le tissu social aux alentours, mais pas que. Je veux dire, par exemple, si je prends le cas du Delta, c'est même au niveau institutionnel, au niveau des fonds, que ces fonds sont répartis non pas que sur le lieu de lien, mais sur les institutions et les partenaires autres aux alentours. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de plus formel qui a été mis en place. Et donc, c'est vraiment très pluriel comme approche. Et c'est ça qui est bien aussi, parce que la pluralité des approches fait que ces lieux sont différents, et tant mieux, parce que nous sommes tous différents. Et donc, pour répondre à ta question finale, qui est pour moi la plus centrale, comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'effectivement, on ne fait pas forcément la publicité, ce n'est pas connu en tant que tel. Je dirais que, voilà, par exemple, je pense que c'est la Ligue qui a fait un petit leaflet par rapport à ça. C'est du bouche à oreille. Je dirais que c'est un peu la façon belge de fonctionner. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou bien si on fait un passage en psychiatrie, ces lieux-là se font connaître auprès des institutions. Et alors, à ce moment-là, les travailleurs et travailleuses sont informés et peuvent diriger vers l'un ou l'autre lieu en fonction de la personne et en fonction du moment où elle se trouve.
Par le lien, c'est énormément la parole, j'ai l'impression. Et pour les gens qui ont un petit blocage avec ça, est-ce que les lieux de lien proposent des médias pour se rencontrer autre que simplement se parler ?
Oui, oui, oui. Donc effectivement, le fait de franchir une porte, c'est toujours quelque chose de difficile. La porte est ouverte de toute façon, peut-être plus facilement dans certains lieux que dans d'autres. Si je pense par exemple au Pianoctel, ben voilà, il est ouvert, tu pousses la porte, tu rentres, tu bois un café ou autre chose, hein, d'ailleurs. Mais voilà. Là, c'est relativement ouvert. Il y a d'autres lieux où il faut quand même passer par une espèce de sas. Voilà, c'est pas toujours évident effectivement de faire cette démarche là et quant au fait de la parole, ces lieux là ne te demandent pas quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle, j'aime pas le terme, hein, le basseuil, dans le sens où aussi bien parce qu'il y a un aspect financier aussi, donc c'est pas tes moyens financiers qui vont te freiner, c'est vraiment ce passage là qui est très difficile. Et c'est là je vais un peu prêcher pour ma chapelle, mais où par exemple un père aidant ou en tout cas un ami, une connaissance peut aider à ce passage là mais ça, je pense que c'est un peu pour tout. On n'arrive pas en hôpital psychiatrique par exemple pour passer à, voilà, c'est aussi un passage dur d'admettre ça. Je me souviens de mon propre parcours, le fait de mettre les pieds en psychiatrie, j'avais l'impression de passer dans un monde parallèle qui m'était complètement inconnu, avec ses codes, avec ses façons de parler, avec ses habitudes. Je pense que c'est toujours assez central. Par exemple, le fumoir est un lieu central dans un hôpital psychiatrique. Il y a des règles qu'on nous apprend, en tout cas qui nous servent, nous, en tant que père aidant. Voilà, on évite les histoires sentimentales, on évite les prêts d'argent, etc., etc. C'est tout un code qu'il faut réapprendre et qu'il faut assimiler. Mais ça, je pense que c'est un passage dans la vie de tout le monde. Il n'y a pas que dans la santé mentale qu'on fait ça. Le premier jour où on se présente dans un boulot, je suis désolé, mais ce n'est pas évident non plus. Voilà, ça répond à quelque chose. Après, que les gens fassent la démarche ou pas, quelque part, ça leur appartient aussi. Et c'est un choix qu'il faut respecter aussi.
Le lien, il passe aussi par les activités. Donc, un lieu de lien propose en général des activités. Et c'est grâce à ces activités, au déroulement de ces activités, que va se créer le lien.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est une fois qu'on a franchi la porte. Je crois que le plus difficile, c'est de franchir la porte, vraiment.
J'aurais une question à un usager. Je ne sais pas si tu veux répondre à la question. Par rapport à ce lieu de lien, toi en tant que membre ou usager, je ne sais pas comment on dit.
Oui, quel lieu de lien
Ici, le Bourlingueur, pour toi.
Je ne suis jamais venu ici, je fréquente d'autres lieux de lien par contre.
Ok. Et pourquoi tu ne fréquentes pas le Bourlingueur
Je suis déjà assez occupé. Et aujourd'hui, je suis venu en fait plus pour écouter. Et on m'avait aussi dit qu'on n'allait pas que parler du Bourlingueur. Mais je fréquente le club Nord-Ouest. Avant d'avoir fréquenté un lieu de lien, j'ai d'abord été dans des hôpitaux psychiatriques, puis des centres psychiatriques, et puis dans des lieux de lien, enfin dans le club Nord-Ouest. Et le club Nord-Ouest, ça m'a permis d'avoir moins de pression à tout ce qui est thérapie, parce que le club Nord-Ouest, c'est enfin, on ne fait pas beaucoup d'activités dans ce lieu précisément. On est libre de faire ce qu'on veut. Et donc, voilà, c'était comme une sorte de belle fin pour moi dans le milieu psychiatrique. Même s'il n'y a pas de fin et qu'il y a toujours des suites, en fait. Mais je le vois comme une grande respiration là-bas.
Ça t'a apporté beaucoup de choses. C'est les lieux de lien que tu as pu fréquenter
J'ai fréquenté... Je fréquente que le club Nord-Ouest en général. Je vais aussi dans d'autres lieux de lien, mais le projet se consacre au club Nord-Ouest. Ça m'apporte beaucoup de choses. Les gens sont très sympas. même s'il y a parfois des petits conflits avec certaines personnes, c'est rare. Et les gens sont chouettes. Je me sens vraiment bien. Je me sens compris aussi. Et voilà, ça m'apporte de l'amour. Et mes projets aussi, je peux en parler aussi. Je participe, enfin, je fais des permanences. J'aide à servir enfin, les boissons. J'ai aussi animé un atelier. J'anime un atelier qui s'appelle le Café Citoyen. C'est des groupes où on parle de citoyenneté, des sujets qui concernent la société. Donc, au début, je l'ai fait en binôme avec un salarié, parce que moi j'étais juste bénévole accueillant. Et puis petit à petit, ils m'ont laissé faire tout seul, ils avaient confiance en moi.
On va mettre une petite musique un petit peu. Et on va laisser le soin à Margot.
J'en ris, laisse même mes dents prendre le soleil. Je ramène ma fraise là où c'est triste. Je te prends la main, sentir couleur, structure, culture en auxiliaire. J'ai l'air de faire des rimes vivantes. On tourne en valse, loin du ciment. Les grands de ce monde, je les calcule pas. Ça me fout la gerbe de voir la merde. Alors je me perds dans le fond de tes yeux. Et je danse avec les deux. Allons plus loin, en autarcie. Voir comme c'est beau, les ciels pluvieux. Qu'un jour pluvieux, je puisse dire comme tout est beau, avec le sourire. Et nique sa mère, je veux la lumière. Jusque j'ai pas des choses primaires. Le vent clairait, l'esprit serein. Le chant du ciel et l'amour des chiens. L'amour de ma mère, ça me suffit pas. Je voudrais qu'elle aime la terre entière. Mais ça, les gens apprécient pas. Ils disent qu'il faut rester au pas. Des fois c'est sec comme une biscotte. On n'aime pas le mec qu'on est devenu. On se laisse berner par jaune du toc. Et on regrette ce qu'on a perdu.
Et nous voici de retour en direct du Bourlingueur à la clinique Sans Souci, car aujourd'hui à l'inauguration des nouveaux bâtiments. Et voilà, on parle justement aujourd'hui des lieux de lien et un petit peu de ce que ça peut générer Au niveau psychique, au niveau du mental, comment on est avec l'autre un petit peu. Donc justement, il y a cette nouvelle architecture, cette nouvelle manière de voir les choses à sans souci. Justement, j'avais une question aussi à Pascal, elle qui fréquente un petit peu le bourlingueur.
Oui, effectivement, oui, tout à fait. Donc, parce que je connais le bourlingueur depuis ses tout débuts, c'est-à-dire depuis que l'idée a été lancée dans un groupe de parole par une personne, donc hospitalisée à cette époque-là. Et il se fait que c'est grâce à elle que finalement tout. On a mis en chantier un lieu de lien, mais un peu particulier parce qu'il est effectivement à l'intérieur même de l'hôpital. Et on a tous ensemble, donc que ce soit des professionnels de soins, que ce soit ou que c'était aussi des personnes hospitalisées, avec la cuisine, avec le département de la cuisine, de la technique, etc. Donc tout le monde s'y est mis pour créer ce tout petit d'ailleurs lieu de lien intra-hospitalier. Voilà.
C'est une petite histoire, un petit peu du bourlingueur. Il a été créé en 2017, donc la création du bourlingueur. Et c'est justement une petite cafétéria pour inviter ses proches.
Oui, voilà, donc c'est ça. Hein. Donc c'est pour les personnes qui sont hospitalisées, mais pas seulement. C'est évidemment pour les proches aussi et pour les membres du personnel également. Et aussi, on espère un jour aller un petit peu vers les voisins aussi. Et parfois aussi, viennent des anciens patients, en fait, des anciennes personnes qui ont envie de se remettre un peu dans... Peut-être qu'elles en ont besoin, qu'elles en ont envie, je ne sais pas. En tout cas, certaines reviennent, oui.
Et justement, c'est un petit peu... C'est ouvert, bon, comme tu as dit, aux usagers, aux membres du personnel, aux proches. Donc là, il y a apparemment une ouverture vers l'extérieur. Donc il y a aussi un petit film qui a été créé sur le bourlingueur, ça aussi. Et on peut dire aussi que c'est des prix démocratiques. Donc c'est pas, c'est justement pour que tout le monde puisse venir. Et les bénéfices permettent de faire une petite fête organisée, je pense, de temps à autre. Et donc voilà, il est un petit peu situé un petit peu en dehors.
C'est important. Donc il est situé effectivement donc à l'extrémité, donc à la lisière de la clinique, donc vraiment tout près de la sortie. Et symboliquement, je pense que c'est important effectivement parce que ça permet cette idée peut-être de passage, de transition vers le milieu de vie. Qu'on souhaite tous, évidemment, pour tout le monde.
Et j'aurais justement une question à Jean-Marc, qui est là un petit peu, qui est le directeur, par rapport justement à ce lieu de lien et cette inauguration des nouveaux bâtiments. S'il pouvait un petit peu en toucher un mot, qu'est-ce que ça apporte un petit peu par rapport à la clinique, cette inauguration et ça consiste en quoi, justement, ces nouveaux bâtiments
Mais la clinique, sans souci, est à une étape importante. On a publié aujourd'hui un livre qui a été écrit par Raoul Titeca et par notre architecte Philippe Samin. Et ce livre est l'aboutissement de toute une histoire. Une histoire de la psychiatrie à Bruxelles, de la psychiatrie d'une dynastie de médecins. Une histoire d'une psychiatrie qui est une psychiatrie libérale aussi, et qui a traversé les époques depuis le début du siècle passé et bien avant déjà. Voilà. Donc c'est un peu un point de basculement entre notre mythe fondateur, finalement, et une psychiatrie que l'on veut chaque fois renouveler. Raoul Titeca, qui a écrit ce livre, a beaucoup contribué déjà à beaucoup de belles innovations au travers de la psychiatrie institutionnelle. Il a été porteur de la pérédance aussi, ici, à la Clinique Sans Souci. Il y croit vraiment, Et quand je dis il y croit, c'est vraiment ça. La notion d'espoir est là, dans la notion de rétablissement. L'espoir, c'est y croire, et les soignants y croient aussi. Et on a besoin de personnes qui inspirent. Raoul de Decker était vraiment quelqu'un qui a, moi, inspiré ma carrière. Je pense qu'il a inspiré la carrière de Pascal François-Lay aussi, ici, qui l'a beaucoup soutenu dans l'établissement de choses nouvelles, l'établissement du Nord-Ouest notamment. Voilà. Alors cette architecture, c'est des bâtiments nouveaux qui projettent la psychiatrie à sens aussi dans un siècle nouveau. Ça a quand même pris 30 ans pour établir ces bâtiments. Hein, beaucoup de travail administratif et beaucoup de contraintes qu'il a fallu dépasser. Hein. Et nous avons pu miser sur un architecte qui a compris notre programme d'architecture. Voilà. Si je lis les chapitres qu'il a écrits, c'est un havre de quiétude, l'implantation dans la nature, en prenant parti de l'inclinaison du terrain. Voilà. De toucher les sens aussi. C'est une architecture qui touche les sens. On peut voir les matériaux utilisés, la géométrie, les proportions. Et une architecture qui met les choses en mouvement aussi. Le modèle théorique, c'est un modèle un peu sans doute prétentieux, qui est celui du modèle de Boston, mais ici, à Sanssouci, on bouge. On se lève le matin. Suivant le temps qu'il fait, on s'habille pour aller au réfectoire. Et on peut choisir, on a le choix, de manger entre telle heure et telle heure, et de revenir dans l'unité de soins, et de repartir ensuite dans un lieu d'activité qui se trouve dans la maison d'en face. Donc il faut traverser la rue. Hein, et puis on revient peut-être dans l'unité, et puis on vient au bourlingueur, et puis on va dans une activité. Et donc le mouvement ici a beaucoup de place, et l'architecture a été pensée en fonction de ça. Le mouvement, le temps, qui fait qu'on se met en mouvement et qu'on développe une énergie qui permet de réactiver son auto-actualisation, en fait. On va vers ce qui nous semble bien pour nous, et les soignants essayent d'encadrer ça. Voilà.
Ici, le bourlingueur qui a Sanssouci, est-ce que ce ne serait pas un cocon un petit peu à part, mais qui serait dans l'institution, mais un peu à part, de se dire, bon voilà, on peut...
À part, effectivement, c'est à part, et c'est, si c'est dedans, c'est les deux, et c'est aussi basé sur l'entraide entre pairs, oui, tout à fait, et comme d'ailleurs les lieux de lien dont Marco a parlé tout à l'heure, donc c'est aussi avec cette notion d'entraide qui est terriblement donc importante. Moi, je voulais revenir un peu, tu parlais d'amour tout à l'heure, donc moi j'avais envie de parler de bienveillance. Ça fait partie aussi des lieux de lien, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et là, je pensais à Jean-Marc, je pense quand même qu'il s'y connaît un bout, quoi. Enfin, qu'il en connaît un bout sur le sujet.
Oh, merci de m'accorder d'être quelqu'un qui peut parler de la bienveillance. J'ai envie de dire, les pères aidants incarnent l'espoir. Ils y croient. Ils ont l'expérience de leur vécu, de ce qu'ils ont traversé. Ils peuvent le partager. Ça, c'est certain. Et pourtant, c'est quelque chose... Ils savent s'écouter aussi, souvent. Hein? Ils savent s'écouter. Et pourtant... Ça peut paraître simple, mais ce qui est simple est souvent compliqué, et ça peut être compliqué particulièrement pour les soignants. Je dis ça de façon prudente pour mes collègues et pour moi-même. Ce n'est pas si simple pour les soignants de se laisser interpeller par le fait que la rencontre humaine, simplement, est soignante déjà. Une personne, disait Emmanuel Mounier, est une personne. Elle ressemble à toutes les autres, à quelques autres et à personne d'autre. Je trouve que cette phrase résume tout. Et Carl Rogers disait aussi, ce que je suis, ce que je sens, peut parfaitement servir de base à la thérapie. Et vraiment, la paire aidance, elle interpelle les soignants à descendre de leur piédestal, pour entrer dans la vraie rencontre avec les patients, et pour se laisser rencontrer aussi par les patients. Il y a quelque chose de pleinement humain comme message là-dedans, tellement fondamental, tellement simple, que ça nous interpelle en tant que soignants pour descendre de notre théorie, de nos fonctions méta, de nos... Enfin, tout ce qu'on a appris quand on sort de l'UNIF, voilà. Pour être là avec, simplement, voilà. Et pour accepter que la fonction soignante, elle n'est pas portée uniquement par les soignants.
Ce qui ne signifie pas du tout que les connaissances soient utiles.
Certainement pas, il faut conjuguer les choses, bien sûr. On a besoin de fonctions dirigeantes dans un hôpital, on a besoin de fonctions psychologiques, de fonctions diététiques, de fonctions sociales, de fonctions, on a besoin de fonctions techniques, de, bien sûr, de maîtrise de certains outils. Hein. Mais néanmoins, quel que soit le vecteur de travail, quelle que soit la fonction, je pense que l'humanité passe par la rencontre, simplement. Voilà. C'est quelque chose qui nous invite à quitter toute prétention, finalement, dans notre fonction sociale. Et si on quitte toute prétention, on est dans la bienveillance, je pense.
Et pour parler d'architecture un petit peu mouvante, le bourlingueur, le fait qu'il était un petit peu en dehors, justement, de Sans Souci, justement, à l'extrémité. Est-ce que justement ça a été fait exprès ou ça permettait justement aux patients de trouver un lieu un peu à part de la clinique Sans Souci, de se dire ben j'ai un petit peu un havre de paix, je suis en même temps dehors mais en même temps dedans, donc un petit peu
Mais je pense que c'est aux membres de la direction de répondre, parce que personnellement moi je n'en sais rien. En fait le lieu nous a été présenté, nous a été donné. Mais maintenant est-ce qu'il y a vraiment eu une volonté, je ne sais pas.
Je pense que pas plus tard que la semaine dernière, notre médecin directeur général, Dr Fleischmann, a affirmé que le souhait pour l'avenir dans la clinique Sans Souci, c'est qu'il y ait des pérédants dans toutes les unités. Hein. Et ça, c'est une façon de faire en sorte que... C'est une façon de dire aussi que nous souhaitons soutenir un lieu comme celui-ci. Nous souhaitons le valider, le revalider, le confirmer. Oui. Le bourlingueur, c'est une partie de l'offre. Alors, est-ce que je dois dire de l'offre de soins de Sans Souci ? Non, c'est une partie... c'est une partie de la clinique Sans Souci, oui. Oui.
C'est juste comme ça, pour moi. Pour moi, c'est assez juste, assez justement dit. Et ça ne nous éloigne pas tellement du thème du jour, hein, qui est donc vraiment les lieux de lien à Bruxelles. Donc... J'achoppe parce qu'en fait le titre du film s'appelle Les liens du lieu. Donc voilà, donc c'est un petit jeu de mots. Voilà. Donc voilà, on peut revenir sur les liens, les lieux de lien. Quels sont-ils à Bruxelles ? Donc on a parlé du Delta, on a parlé du Pianoctel, donc dans les Marolles. On a parlé, il y a le circuit aussi qui est dans au centre de Bruxelles. On a encore des lieux de lien un peu partout en fait à Bruxelles. Et je sais déjà d'ailleurs qu'il y en aura un bientôt à Molenbeek aussi. Et alors voilà que je retrouve mes petites notes. Ah oui, la trace, donc la trace dont on a longuement parlé le mois dernier, hein, donc a participé avec la Ligue bruxelloise de santé mentale sur un guide des lieux de lien. En fait, et ce guide de lieux de lien est accessible donc sur Internet. Et sur, enfin, il y a une version papier aussi. Il y a SEM qui peut, qui est un projet aussi participatif. Donc il faut savoir que le Bourlingueur dont on parlait tout à l'heure est un projet aussi participatif dans le sens où ce sont les personnes elles-mêmes qui gèrent le lieu au quotidien. Donc SEM qui peut, c'est plus la terre, hein, donc c'est un projet pour respirer le grand air, se faire du bien, etc. Donc comme tu disais, hein, il y a vraiment pluralité. Le Bubble Zine, donc l'occasion de se poser, prendre le temps, proposer, etc. Le Pianoctet, l'autre lieu aussi repris dans le guide, mais je ne pense pas qu'il soit considéré comme un lieu de lien. Margot, peut-être, je ne sais plus. Non, parle pas Margot, non. Elle fait la technique, c'est déjà très très bien, voilà. Il y a l'espace Jean Vermel, donc aussi, donc pour les 16-65 ans, donc avec un lien avec la commune d'Anderlecht, donc ça c'est aussi un peu différent. C'est un lieu d'accompagnement socio-thérapeutique, donc voilà, il y a Macadam ASBL, l'espace 51 dont on a parlé tout à l'heure. Enfin bon, voilà, il y a toute une panoplie de lieux de lien et je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à franchir la porte parce que c'est effectivement pour la déstigmatisation, je pense que ça joue quand même un rôle, à mon avis, un rôle quand même assez important. Parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est par ce mélange, parce qu'il faut quand même savoir que il y a des thérapeutes parfois dans ces lieux de lien, mais pas toujours. Il y a aussi des pères aidants, il y a des travailleurs sociaux. Enfin, je veux dire, il y a des gens du quartier aussi. Il n'y a pas seulement des gens qui souffrent d'un problème psy, quoi, en fait. Chantal, hein, c'est vrai, non ?
Tout à fait, oui. Non, mais je... Tout à fait, bonjour. Oui, exactement. Je confirme.
On réveille un petit
bonjour
peu
Chantal. Oui.
Et à ceux qui ont pu résurrectionner du principe de la santé mentale de manière magnifique. Mais voilà, donc... Je n'ai rien d'autre à rajouter.
Mais moi, justement, on va en parler un petit peu. Ben, merci, Pascal, de nous rappeler qu'il y a plusieurs lieux de lien sur Bruxelles. Et ici, nous avons Marco, justement, qui travaille à différents endroits et dans différentes fonctions. Et j'ai une question à lui poser. Pour lui, qu'est-ce qui fait le plus lien ? Est-ce que c'est de faire des activités ou est-ce que c'est juste de venir prendre, boire un verre ? De créer un contact, parce qu'il y a différentes manières de parler avec l'autre, de faire des choses, d'être d'humain à humain, et de plus d'oublier parfois un petit peu la maladie, parce que justement, ces lieux de lien, c'est toujours ici, dans ce cadre-là, dans le cadre de la santé mentale, mais est-ce que ça permet un peu d'oublier un peu parfois sa maladie, ou de se dire, ben voilà, on est entre nous, mais... hors cadre, on va dire.
Mais j'ai envie de répondre d'une façon peut-être un petit peu décalée. J'ai une amie un jour qui m'a dit, finalement, ces lieux de lien ne font jamais que remplacer une fonction que la société remplissait avant. Notamment François du Delta qui disait, ben, le lieu de lien du Delta, c'est comme un bistrot, mais sans le côté glauque. Lieu de lien, ça veut tout dire et ça veut rien dire. On a mis maintenant un cadre à ça. J'ai coutume de dire qu'un cadre, c'est fait pour être dépassé. C'est fait pour être dépassé pour des bonnes raisons. Ce cadre existe et c'est tant mieux. Mais ce cadre aussi est révélateur d'une maladie de société qui est l'absence de lien. Et il n'y a pas que les gens qui sont passés par la psychiatrie, que ce soit pour une maladie traditionnellement reconnue comme telle, la santé mentale, mais ça peut être aussi les addictions, ça peut être un vécu à la rue. Les habitants de la rue sont aussi victimes de cette société éminemment individualiste. Et on oublie justement ce lieu de lien. Et je pense que les gens aussi sont malades, les gens qui n'ont pas forcément un parcours en psychiatrie, sont malades de cette société où le lien n'existe plus. On en arrive à créer des lieux qui sont dédiés à une fonction qui est inhérente à l'humanité. Ce lien est perdu. Alors, qu'est-ce qui fait lien ? Mais qu'est-ce qui fait lien ? Ça dépend de la personne. Une personne va vouloir simplement prendre un café, va vouloir rencontrer d'autres gens, va vouloir se sentir bien là où elle est, a besoin parfois aussi d'activités. Les activités sont très multiples. C'est ça aussi qui est très chouette. Ça va effectivement, comme tu disais, de ce qui peut où on est en contact avec la terre à de la méditation, du qigong, du théâtre, du dessin. Les activités sont multiples. Ça peut être faire cuisiner ensemble. Et cuisiner ensemble, on sait bien que la nourriture est quelque chose de central chez l'humain. Parce que sinon, on en meurt. Après avoir sorti cette lapalissade, j'explique, c'est simplement c'est ce qu'on appelle le commensal. Donc, le fait de faire de la nourriture ensemble et d'inviter l'autre à partager cette nourriture est quelque chose qui fait lien aussi. Je dirais que le lien est tellement multiple et tellement à la fois universel et personnel, pour revenir à ce que Jean-Marc disait, on revient à l'individu, à la personne et au moment où la personne est. Ce qui fait lien pour moi maintenant ne fera pas lien forcément à un autre moment. Et c'est vraiment, vraiment très important. Et pour en revenir à au bourlingueur qui nous fait la joie de nous accueillir aujourd'hui, cette position aussi bien géographique que mentale de passerelle de lien entre l'institution et l'extérieur est fondamentale. Parce que bien souvent, et là je parle d'expérience, quand on sort d'une post-cure, on est de nouveau dans la société où on ne trouve plus, c'est pour ça que je parlais de la maladie de la société, on ne trouve plus ces lieux où on se socialisait avant, où on avait l'occasion de discuter. Même les bistrots, avec la crise du Covid, et c'est révélateur, hein, les bistrots ont été fermés et ça a fermé pas mal de gens. On a vu ça avec les apéros, visio-apéros, je ne sais plus comment on les a appelés. Les gens ont commencé à boire chez eux. Et en tant que père aidant spécialisé dans le domaine des assuétudes, croyez-moi, on a une recrudescence des problèmes liés à la consommation, que ce soit l'alcool ou autre produit. Hein, parce que avant, on ne consommait pas chez soi et donc ça permettait de freiner ce truc-là. Et le fait d'avoir brisé ce tabou, d'avoir franchi cette frontière, ça a créé quelque chose. Et donc, effectivement, retrouver à travers ce lieu de lien une autre façon d'exister, une autre façon de faire, au-delà du travail, du côté un peu machinique qu'on a imposé aux gens. Donc, on est des consommateurs, on est des producteurs, mais on n'est plus des humains dans cette société-ci. Et donc, on réhumanise quelque part à travers ces lieux de lien, mais il faudrait peut-être un peu les ouvrir et les décloisonner de la santé mentale. Ce n'est pas que la santé mentale qui est en cause.
Ben, merci Marco. Et là, je vais vous lire une petite histoire, justement pour faire un petit interlude. Et le titre, ça s'appelle « Le ticket gagnant ». Sheila adorait jouer au loto tous les samedis depuis des années. Elle jouait toujours les mêmes numéros. Jamais elle n'en changeait. Elle y consacrait une certaine somme de manière annuelle. Parfois, il lui arrivait de gagner de petites sommes, mais jamais le gros lot. Et pourtant, comme elle en rêvait de ce gros lot. Elle crevait de jalousie de voir que d'autres gagnaient et pas elle. Elle voulait être riche, être dans l'excès. Elle était née dans une famille de gens assez pauvres. Elle devait, pour se laver, chauffer des litres d'eau pour se nettoyer. Elle avait des frères et sœurs. Le nombre exact était de 7. Leur mère, quand elle cuisinait, faisait l'appel. Mais elle ne le faisait qu'une fois. Si on manquait ce repas, on ne savait jamais quand serait le suivant. Et au vu de ce que son père gagnait, il valait mieux faire des réserves. Le plat était dévoré en général en 5 minutes. Les bouches mastiquaient rapidement pour pouvoir ingérer la nourriture le plus rapidement possible. Depuis, Sheila avale tout aussi vite son repas de peur de manquer. Elle voulait prendre une revanche sur l'existence en gagnant au loto. Elle passait son temps à comparer les prix, à serrer la ceinture. Son existence était assez moyenne. Elle ne pouvait pas se permettre de voyager plus d'une fois par an, et pas loin en plus. Son rêve de décrocher ce jackpot, et c'était de prendre cette revanche sur l'existence qu'il avait malmenée. Et cette injustice qu'elle sentait à chaque fois. Chaque tirage était une torture pour elle. Quand elle ne gagnait pas le jackpot, elle se remettait dans tous ses états. 30 ans de jeu et pas de grosses sommes qui lui permettraient de sortir de cette misère existentielle. Ce samedi-là, elle devait jouer ses numéros fétiches. Mais pas de chance, elle avait oublié son sac à la maison. Elle était dépitée de ne pas jouer. Le lendemain, d'un air absent, quelle ne fut sa rage et sa surprise lorsqu'elle vit que tous ses numéros étaient sortis. Le jackpot était de l'ordre de 300 millions de dollars. Elle ne pouvait y croire. Le seul jour où elle devait jouer, elle ne l'avait pas fait. Elle hurla de rage et de désespoir et pesta sur sa vie, qui n'avait jamais été là pour elle. Elle resta dans cette position une semaine. Mais elle reçut une bonne nouvelle. Le libraire avait joué pour elle. Et grand seigneur, il lui donna la moitié du gain qu'il avait gagné. Et dans la foulée, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. D'ailleurs, le nom de famille du monsieur était Jacques Pot. Voilà pour cette petite histoire qui fait un petit peu lien. Et voilà, nous voici de retour justement pour parler justement de ces lieux de lien. Le Bourlingueur qui a la clinique Sans Souci justement. Alors, je vais poser une question à Jean-Marc qui est en train de regarder un petit peu le livre de la clinique Sans Souci, qui est assez content de savoir un petit peu est-ce qu'on peut l'acheter, où peut-on le trouver, pour justement un petit peu connaître un peu plus l'histoire de Sans Souci et sa clinique.
Alors, ce livre a été distribué aujourd'hui à toutes les personnes qui sont passées pour l'inauguration de la clinique. Il n'est pas prévu qu'il soit en vente, en tout cas dans le commerce. Il sera déposé, bien sûr, avec un numéro ISBN à la Bibliothèque nationale et dans la bibliothèque publique de la région. Il faut s'adresser à la clinique, je pense, pour pouvoir l'obtenir, si vous voulez l'obtenir. Ou via Pascal, peut-être. Et voilà.
J'ai une question aussi pour Jean-Marc, justement, par rapport à ces lieux de lien. Est-ce qu'il y a eu... on a senti un mieux-être chez les personnes qui fréquentaient, justement, ces lieux de lien en étant hospitalisées dans la clinique Sans Souci?
Moi, ça fait très longtemps que je travaille avec les associations d'usagers, les groupes d'entraide. Au début, on parlait de groupes d'entraide, d'associations d'usagers. C'est tout un développement, hein. C'est toute une histoire, en fait. Hein. Et sur 30, je me souviens avoir poussé la porte du Pélican rue de la Bricotière en début des années 90. Vous voyez, j'ai travaillé avec Similes aussi début des années 90. Ces associations d'usagers se structurent, elles se structurent de façon commune. La LUS aussi fait un travail incroyable. La parole des usagers se structure. La loi se structure sur le droit du patient. Enfin, tout ça, ce sont des développements qui sont des développements parallèles et qui sont importants. Vraiment, vraiment. La père aidance se développe, les formations de père aidance se développent. Donc c'est un travail d'appropriation qui sans doute est lent. C'est un vrai travail politique, en fait. C'est pas un travail de la politique, mais c'est du politique que d'être père aidant. C'est d'occuper une place dans la société de citoyen particulier. Hein, c'est vraiment une interpellation importante pour tous. J'ai envie de citer deux choses qui me sont arrivées là dernièrement. J'étais au 50e anniversaire du centre d'entraide de Jette. J'étais à table le soir. J'y allais en me disant, je vais rencontrer des collègues pour faire réseau. Et je me retrouve à table le soir avec des personnes qui étaient ici à Sans Souci et qui y sont toujours. Je me suis dit, waouh, qui est au centre du réseau? C'est pas nécessairement les professionnels qui font réseau, c'est les usagers qui sont dans les mailles du réseau, qui vivent, qui trouvent l'entraide, justement. Première chose. J'étais hier dans une soirée sur le thème du deuil, ici à Jette, une petite association qui s'appelle Le Petit Prince Adi, qui travaille sur le deuil, avec des pères aidants aussi. 19 personnes étaient là, assises en cercle, d'abord pour voir un film, et puis assises en cercle pour parler du deuil. Quelque chose d'aussi intime, d'aussi particulier, d'aussi difficile. Mais quel réseau, quelle entraide. Des paroles toutes simples, pleines d'émotions, de larmes parfois qui ont été échangées. Moi, je suis toujours émerveillé de ça. De voir combien la rencontre humaine s'infiltre. Elle passe dans les mailles de la société, dans les mailles du réseau. Elle arrive à créer des choses comme des lieux de lien, comme des associations. Voilà. Je pense que c'est un mouvement qui est en train de poindre, qui est déjà bien établi, je pense, et que j'ai envie de soutenir simplement. Quand je donne des formations de psychothérapeutes, en France notamment, j'invite des usagers, par Zoom, à venir donner leur témoignage. Et souvent, j'entends au terme de cette formation que j'ai donnée que le point le plus essentiel, le plus parlant et le plus formateur de la formation, ça a été justement le fait qu'ils aient reçu le témoignage et qu'ils aient pu entrer en contact avec quelqu'un. Au-delà de la théorie, bien sûr, il en faut de la théorie, il faut du concept, il faut bien sûr. Hein, mais voilà, la rencontre humaine, c'est quand même le plus essentiel.
Justement, les lieux de lien, ça permet d'être en contact avec d'autres humains, d'échanger, de partager et d'avoir un contact direct et ne plus être dans ces réseaux un petit peu sociaux qui un peu nous déshumanisent parfois un petit peu justement.
Exactement, parce que une personne qui est seule et qui est dans la souffrance psychique, si elle reste seule, ça ajoute du drame au drame. Alors, une personne ne se développe pas toute seule. Le personnalisme est communautaire, en fait, philosophiquement. La communauté est essentielle au développement d'une personne. C'est ça l'interpellation aussi de la pérédance et des lieux de lien.
Ouais. Ah, merci Jean-Marc. Alors, Chantal est impatiente de nous lire son texte qu'elle a écrit sur Sans Souci.
Mais oui, alors... Chers auditeurs, chères auditrices, sans souci, point d'interrogation, au département de la cuisine de nos vies. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il y a des allées et venues le long du couloir d'une psychiatrie en mode batterie de cuisine où tout s'emballe tellement la vie traîne des casseroles. Et quand c'est le ras-le-bol, nul n'est dans son assiette. Tambour battant, la soupe au médoc puise sa source dans une pharmacopée lumineuse qui aide à panser ses plaies. Quand justement on a bu la tasse. L'horloge tourne, la vie passe, et à la manière d'une plante qui s'appelle le souci, il est urgent de trouver le terreau idéal pour nourrir son espace vital. Sans souci m'évoque une inspiration poétique. Le nez dans le guidon, on respire mieux une fois qu'on est remonté sur selle. Et la poésie, pour ma part, m'a permis de passer de la mort à la vie. J'ose le dire, l'absence de soucis serait une belle fuite. La vie est ce parcours d'obstacles qui m'a permis de penser et de croire au miracle. Merci la vie.
Merci Chantal pour ce texte sur Sans Souci. On arrive un petit peu vers la fin et donc j'aurais une question aussi à Pascal. Toi Pascal qui a fréquenté un peu ces lieux de lien, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement
Je pense qu'Asdine a déjà répondu à cette question. Je pourrais reprendre sa réponse simplement. C'est toute ma vie en fait. Donc c'est toute ma vie depuis que j'ai lu un livre donc sur un témoignage sur une personne bipolaire, une psychiatre qui a écrit un livre il y a déjà bien longtemps maintenant. Et effectivement, ça a commencé par la lecture d'un livre. Et je pense que ça commence souvent, en effet, par le témoignage d'un père aidant. Donc forcément, elle était père aidante pour moi. Et ça a commencé comme ça. Maintenant, les lieux de lien, oui, il y a eu le funambule aussi dans ma vie. Le funambule, donc, pour les personnes... que concerne le, enfin concerné, je sais pas comment on dit exactement maintenant, mais en tout cas à l'époque c'était pour les personnes concernées par le trouble bipolaire et leur entourage. Donc ça a été le début des lieux comme ça, donc un plus ou moins étiqueté psychiatrie. Et j'ai plus, enfin, je sais pas te dire ce que ça m'a apporté, mais en tous les cas, sans eux, c'est juste impossible, en fait. Donc, sans tous ces lieux, sans tous ces gens, sans toutes ces relations, ces liens, il y avait juste pas moyen de s'en sortir. Voilà. C'est tout.
Merci Pascal. J'ai encore une question pour Marco. Aujourd'hui, j'ai des questions pour toi parce que t'es à côté de moi. Non, donc voilà, tu as animé des cours de théâtre à leur atelier. Est-ce que pour toi c'était une manière de mettre en lien des personnes qui venaient d'horizons un petit peu différents, de leur faire découvrir un petit peu le théâtre de manière un peu amateur, et aussi par tes autres expériences de père aidant, et tu fais aussi l'accueil au Delta. Est-ce que de chaque expérience, tu essaies de créer un certain lien à ta manière ?
Mais j'ai envie de te répondre que la prochaine fois, je choisirai une autre place. Ça, c'est une première chose. Pour répondre de façon beaucoup plus globale, il y a quelque chose qui m'horripile. C'est quand on lit thérapie avec un autre terme. Que l'hôpital soit un lieu thérapeutique, j'en conviens. Maintenant, quand on mélange l'art, le cheval, le chien, le dessin, peu importe, avec la thérapie, ça m'embête dans le sens où, oui, ça a un effet thérapeutique. Oui, le lien a un effet thérapeutique. Mais ce n'est pas le but du jeu. Je dirais que si on fait du théâtre, pour revenir à ta question, c'est pour faire du théâtre. Déjà, la différence entre amateur et professionnel, c'est une zone très grise. C'est une zone très grise. Si je prends le cas de l'appétit des indigestes, il y a des acteurs de profession, il y a d'autres. Mais quand on joue, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ce sont des acteurs, point à la ligne. Quand les gens rentraient, par exemple, juste pour te donner une idée, les gens rentraient à l'atelier que j'animais, la première chose que je disais ici, c'est laissez vos oripeaux sociaux à l'extérieur. Laissez vos habits à l'extérieur. Ici, vous avez un prénom. Vous êtes un acteur, vous êtes une actrice. Point à la ligne. Le restant, je ne veux pas le savoir. Vous avez envie d'en jouer, vous avez envie d'en parler. Ça, c'est votre choix. Mais le but ici, c'est d'être acteur, au sens jouer une pièce ou faire de l'impro. Peu importe, on a fait du théâtre l'opprimé, on a fait du clown. On a attaqué à peu près toutes les techniques du théâtre. Mais le but du jeu, c'est pas de faire de la thérapie. Le but du lien, c'est pas de faire de la thérapie. Ça a un effet thérapeutique, tant mieux. Mais c'est pas le but. Et ici, je pense que le but du lieu de lien est de faire lien. C'est pas de faire de la thérapie. Il y a plein de lieux qui font lien. Un club de sport est un lieu de lien, etc., etc. On peut le trouver, ce truc. C'est ce qui est fondamental, c'est la notion de lien. Et effectivement, comme Jean-Marc le disait, la notion de réseau qui est concomitante à la notion de lien, c'est fondamental. Quand on voit la pauvreté du réseau de certaines personnes bien portantes, soi-disant, ça fait peur. Si on travaille, notamment, je suis en relation avec Hélène Garin qui travaille sur le projet Egonet. Elle fait une thèse à ce niveau-là. Et donc, elle a développé un programme informatique qui travaille justement sur le réseau que la personne a développé dans son parcours thérapeutique. Et bien souvent, on se rend compte que l'aspect thérapeutique, au sens strict du terme, il est là, évidemment. Enfin, c'est pas si évident que ça, mais enfin, bon, on va dire évidemment. Mais l'autre aspect du réseau, que ce soit les lieux de lien, que ce soit la famille, parce qu'on oublie aussi, la famille est aussi un lieu de lien. Et on s'en rend très vite compte quand la personne est esselée, par exemple un parcours d'habitants de la rue, SDF pour dire ça autrement, donc les habitants de la rue ont perdu tous ces liens-là. Il faut les reconstruire.
Marco, je vais te couper parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission. Je suis désolé.
Grave, hein, c'est ça l'idée.
C'est là, on arrive vraiment. C'est très intéressant, mais voilà, on doit un petit peu conclure cette émission. Merci vraiment d'avoir tous été là, Marco, Jean-Marc, Pascal, Chantal et Margot à la régie, ainsi que les usagers qui étaient présents aujourd'hui. Ben voilà, cette émission se termine sur cette note un petit peu lieu de lien, le bourlingueur et l'inauguration de Sans Souci. Et on espère vous revoir très vite pour la prochaine émission. Merci beaucoup encore et bonne journée à tous.